beaucoup de récits sur la rencontre avec le vivant, avec le ressuscité, dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Luc, Marc, dans l'évangile de Jean, beaucoup de récits. Et Jean nous dit aujourd'hui, ces récits, ces épisodes, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais ils ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà pourquoi ils ont été écrits. Pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est tout. Pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la question de Thomas, parce que Thomas, lui, il voit bien que les disciples, lui, il est allé, je ne sais pas s'il est allé voir son jumeau, parce qu'il avait un jumeau, la ville de Jérusalem, sûrement, s'il est allé faire les courses, on ne sait pas, mais il n'était pas là, dans le cénacle, au moment où le Seigneur s'est fait voir la première fois, le dimanche de Pâques. Et donc, Thomas arrive, il les voit un peu bousculés, hein, comme notre église, là, il y a des fêlures. Bon, il dit, écoutez, moi, ça ne me dérange pas que vous ayez des hallucinations, moi, ça ne me dérange pas, et qu'elles vous rendent heureux, mais tant mieux, et qui suis-je pour vous juger, hein? Non, ça, vous pouvez avoir des hallucinations que vous voulez, soyez heureux, soyez dans le bonheur, peu importe. Mais moi, ce que j'aimerais voir, hein, c'est quand même de savoir s'il s'agit bien de celui qui a été crucifié. Parce que si vous me racontez l'histoire d'un fantôme, je sais qu'en Écosse, vous en aurez d'autres et qu'elles sont magnifiques. Enfin, bon, elles font peur aussi, font trembler. Mais est-ce que c'est bien ce Jésus qui était, que l'on a connu, ce Jésus qui nous a aimés, ce Jésus qui était assez fou pour mourir d'amour pour ses amis? Est-ce que c'est bien lui, qui est aujourd'hui vivant? C'est pour ça qu'il dit, moi je veux quand même voir ses plaies. Son identité, est-ce que c'est lui? Et Jésus, le Christ, il a entendu cette question qui est importante. Parce que pour Thomas, c'est une question d'existentiel, d'existence, de vie. Est-ce que lui, dont on présupposait déjà qu'il était fils de Dieu, qu'il allait donner sa vie pour nous sur la croix, comme il le disait, est-ce que son amour a été aussi fort qu'il a déverrouillé les portes de la mort? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Et dans ce cas-là, eh ben, ça change notre existence, si c'est bien lui, si c'est bien lui. Et voilà que le Christ apparaît de nouveau au milieu du cénacle, il voit Thomas, il lui dit, ben, Thomas, avance tes mains, là, dans les marques des clous. Et là, Thomas est émerveillé. L'amour est plus fort que la mort. Jésus de Nazareth est ressuscité, il est vivant, il est bien le Fils de Dieu. Donc ce que nous avons vécu avec lui, toutes ces relations, c'était des relations avec le Fils de Dieu, avec, comme dit Jean, dans l'île de Patmos, quelques dizaines d'années après les événements à la Pentecôte, qui écrit, ben oui, l'alpha et l'oméga s'est présenté à moi, et j'ai entendu sa voix, je me suis retourné, et il m'a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, j'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles, et j'ai les clés de la mort. Écris cela, j'ai bien les clés de la mort. Alors on se dit, en quoi ça nous concerne? Vous avez remarqué que le cénacle était fermé à clé, il était verrouillé pendant 8 jours au moins. Et plus, sûrement, il était verrouillé, il était fermé à clé. Pourquoi ? Par peur des Juifs, par peur. Il y a dans notre vie aussi des lieux verrouillés, pas seulement par la peur, mais peut-être par la culpabilité de Pierre, par des angoisses, par des craintes, par des réponses définitives, déclarant des choses impossibles, des impasses. C'est possible qu'il y ait cela dans nos vies. En tout cas, les disciples étaient dans un espace verrouillé. Et leur surprise était de voir que celui qui se manifestait à eux vivant, le Christ, qu'il était là malgré les portes verrouillées et qu'il insufflait la paix, une paix, shalom en hébreu, c'est une paix qui guérit les relations, une paix qui est synonyme aussi de pardon, qui est synonyme de reprise de vie, d'une vie nouvelle, d'une vie féconde, créative, quelque chose de tout nouveau. Le Christ dit à Jean à Patmos, j'ai les clés de la mort et de la vie. Dans le cénacle verrouillé, il se manifeste comme cela. La paix soit avec vous. C'est bien lui, le Fils de Dieu. Alors on se demande, mais alors à quoi rime ce dimanche de la divine miséricorde selon la liturgie du jour depuis 25 ans? Pourquoi est-ce qu'on appelle ce dimanche de Pâques le dimanche de la miséricorde? Pourquoi? Moi, j'aime beaucoup le philosophe Bergson, peut-être que vous le connaissez aussi, vraiment la circulation de la vie, la vie qui parcourt, ben voilà, on a même de la vie maintenant sur les façades de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. C'est fêlé à l'intérieur, à l'extérieur, il y a de la végétalisation, il y a de la vie. La vie s'infiltre partout, et bientôt il y en aura ici, dans les fissures. Mais bon, c'est surveillé par la ville de Marseille, on ne craint rien. On ne craint rien. Voilà, mais il y aura bientôt de la mousse, il y aura bientôt de la vie. La vie s'infiltre partout, selon Bergson, et tout est mystère de vie, c'est magnifique. Mais, dans le cénacle, tout était mort. Tout était mort, il n'y avait plus d'espoir. Et la vie des disciples semblait même un échec, avec un investissement de 3 ans auprès de Jésus, ils y avaient cru. Qu'est-ce qui va permettre d'ouvrir de nouveau les cœurs des disciples dans le cénacle ? Bien, c'est la vie, pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et que, en croyant, vous ayez la vie. Il y a une réouverture à la vie, mais ce n'est pas une vie simple d'une sève qui circule, c'est une vie qui vient du vivant, du ressuscité, c'est une vie que lui seul peut apporter. C'est une vie que lui seul, même quand les portes sont verrouillées au-delà de la mort, la vie qu'il peut apporter. Et c'est cette vie que, depuis toujours, le peuple juif déjà appelait par un nom particulier, miséricorde. C'est de la vie, parce que c'est de l'amour, parce que c'est plus que encore que de la bienveillance. C'est de la bienveillance qui vient d'un cœur d'un amour viscéral, des entrailles de Dieu. C'est plus fort que Dieu lui-même, selon Osée chapitre 11. C'est une vie qui est plus forte que Dieu lui-même. C'est une vie qui le prend aux tripes, aux entrailles. C'est un amour inconditionnel. Il ne peut pas ne pas aimer. Il est pas tout puissant. Il ne peut pas ne pas aimer. Il ne peut pas ne pas être pris aux tripes par l'amour. Et c'est cet amour-là qui se manifeste dans le cénacle qui est verrouillé, où on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, plus de solution, plus rien. C'est cela que les Hébreux appellent miséricorde. C'est cette vie en abondance, cette vie folle qui renouvelle la face de la terre. C'est l'expérience que les disciples ont faite au cénacle, et Didyme aussi. Et il sait qu'il peut l'attribuer à Jésus qui est désormais vivant. Il est vivant pour l'éternité. Est-ce que ce n'est pas l'expérience que nous avons faite hier, à distance, par la télévision, en regardant les funérailles, en participant aux funérailles du pape François? Les foules, nous dit la première lecture là, des Actes des Apôtres, elles étaient guéries par l'expérience, par l'événement. Est-ce que l'on n'a pas fait... Le cardinal qui présidait a eu des mots très ajustés sur la vie du pape François. Et il disait, il avait deux mots d'ordre dans sa vie, miséricorde et puis la joie de l'Évangile. Il disait, c'est avec cette force-là qu'il est allé en Irak. C'était très risqué, c'était très risqué. Mais il y est allé parce qu'il voulait rencontrer les gens. Et il voulait rencontrer aussi le chef des musulmans chiites en Irak. Vous vous rappelez cette magnifique photo. Il a voulu casser les murs, percer les murs, ouvrir des passerelles, déverrouiller les portes. En fait, Pierre, les apôtres, ils ont reçu des clés qui ne leur appartiennent pas. C'est les clés du ressuscité, c'est les clés du cénacle verrouillé, c'est les clés de la miséricorde. Et le cardinal l'expliquait très bien. Il disait, là où on avait l'impression que tout était fermé, que tout était verrouillé, il est allé en Irak, il est allé à Abu Dhabi pour ouvrir de nouvelles portes, pour ouvrir de nouveaux formats de coexistence, de marche ensemble, les religieux, vous avez déjà vu à Abu Dhabi, on a trois sanctuaires, une mosquée, une synagogue, une église, co-gérée par une famille abrahamique, par des musulmans, des musulmanes, des juifs, des chrétiens, qui se rencontrent tous les jours pour gérer ce sanctuaire. C'est impressionnant. Oh! J'allais vous dire, oui, mais c'est vrai, moi, j'ai encore pas rencontré de rectoresse dans nos sanctuaires catholiques. Et là, ce sont des femmes. Je les ai rencontrées, Noura et Asma, ce sont deux théologiennes qui gèrent le sanctuaire, la mosquée de cet espace abrahamique. C'est impressionnant. Et là, le cardinal disait hier, mais c'est au nom de la miséricorde qu'il a fait ses ouvertures. Et il faut que ça se poursuive. Là où tout est verrouillé, la miséricorde trouve son chemin. Plus que la vie naturelle, la vie biologique, la miséricorde ouvre les cénacles verrouillés. Ce qui semblait impossible hier, demain apparaîtra comme tout à fait possible. Oh, peut-être qu'on a un petit signe, on ne sait pas. Mais il y a eu quand même du mouvement hier dans la basilique Saint-Pierre. Qui sait ? Peut-être que même des processus de paix, de shalom, sont en marche pour l'humanité, de guérison. Espérons et prions pour cela. Espérons en tout cas. Mais ce serait dommage, vous ne trouvez pas, qu'avec cette marche forcée de François pendant 12 ans, où il a ouvert tant de cénacles verrouillés, ce serait dommage qu'aujourd'hui, on oublie son élan et qu'on s'endorme. On peut prier pour le prochain pape, mais pour nous-mêmes, il ne faut pas qu'on oublie cet élan. À nous de déverrouiller beaucoup d'autres portes.